Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Édouard Philippe sort le 49-3, le Premier ministre l'a dit un peu à l'improviste tout à l'heure dans l'hémicycle. Il a décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites, qui sera donc adoptée en partie sans vote. Pour Édouard Philippe, il fallait mettre fin à cet épisode de non-débat. L'opposition dénonce un passage en force du gouvernement. Le gouvernement qui monte d'un cran également dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. 19 nouveaux cas ont été confirmés ce matin. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé sont annulés. Le salon de l'agriculture à Paris ferme ses portes dès ce soir. Dans les communes de l'Oise, particulièrement touchées par le virus, les habitants sont invités à limiter leurs déplacements. Dans ce journal également, un accord historique entre les États-Unis et les talibans, peut-être l'amorce d'un processus de paix en Afghanistan. Des dizaines de milliers d'indépendantistes catalans rassemblés à Perpignan pour écouter leur ex-leader en exil, Carles Puigdemont. La vie connectée de Christine Siméon qui a suivi les cours en ligne de la réunion des musées nationaux. Et puis la météo, une nouvelle perturbation traversera la France demain d'ouest en est avec à nouveau des vents forts et de la pluie.
France Inter.
C'était attendu, mais peut-être pas si vite. Le Premier ministre a donc mis un terme au suspense en sortant cet après-midi l'arme fatale du 49-3 sur la réforme des retraites pour sortir de ce qu'il a appelé un épisode de non-débat.
Toutes les oppositions sont légitimes, bien sûr. Toutes les contestations doivent évidemment s'exprimer, mais il me paraît qu'elles doivent le faire dans le respect des institutions et des pratiques du débat républicain. Je n'ai pas le sentiment que ce à quoi nous avons assisté soit ce que les Français, favorables ou non au projet de loi d'ailleurs, attendent de leurs représentants. Je n'ai pas non plus le sentiment que notre démocratie puisse se payer le luxe d'un tel spectacle. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
Voilà, Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée nationale, où peu de députés manifestement avaient été avertis de son intervention. En tout cas, c'est la première fois que le gouvernement Philippe en passe ainsi par le 49-3, que beaucoup de ses prédécesseurs avaient également utilisé, Manuel Valls notamment, pour la loi travail. La procédure prévue par la Constitution peut être aujourd'hui perçue comme une forme de brutalité, un passage en force du gouvernement. Maxence Lambrecq, vous êtes à l'Assemblée nationale.
Oui, un coup de force, évidemment, dénoncé ce soir par toutes les oppositions qui, avant de critiquer le fond, critiquent la forme, le calendrier en plein week-end, en marge d'un conseil des ministres dédié au coronavirus. Écoutez la colère du député insoumis François Ruffin.
Venir passer ça un samedi après-midi en catimini, par-dessous le tapis du coronavirus, en disant « bon, pendant ce temps-là, les Français pensent à autre chose », je pense qu'il y a, en plus de la solitude, il y a une forme de lâcheté.
Il restait 39 000 amendements à étudier. Autrement dit, des semaines de débat. Le gouvernement voulait en finir avant la trêve des élections municipales. Et cela exaspère évidemment Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, le prince a décidé que le débat était terminé, que tout le monde est viré. Qu'est-ce que ça coûtait de passer le temps qu'il fallait? Vous avez vu que pendant le débat, on a quand même levé des lièvres, on a vraiment fait apparaître des vrais sujets. Savez-vous que là, le texte qu'il soumet au 49-3, c'est même pas celui qu'on a lu? Les gens vont pas comprendre ce qui se passe. Où est la démocratie parlementaire là-dedans? Où il y a un autre parlement dans le monde où une chose pareille est possible? Où, même en Chine, ils font pas ça.
Bon, cela reste à vérifier. Ce texte est en effet inédit. Il prend en compte des amendements du gouvernement, quelques-uns de l'opposition. Il n'y avait tout à l'heure que 6 députés LR dans l'hémicycle, dont le député Éric Woerth.
Je suis triste. Honnêtement, je suis triste. Je pense que c'est pas bien pour la France, c'est pas bien pour le pays. Il y aurait pu y avoir une réunion avec les responsables politiques sur les retraites. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pendant 2 ans. Ça n'a pas été le cas pendant le débat. Et aujourd'hui, le gouvernement dit « Ah bah ça suffit, vous en avez assez parlé, les enfants. On va laisser la conférence de financement avec les grands parler, les syndicats et le gouvernement. »
Et oui, la conférence de financement devrait en parallèle continuer ses travaux. Ici, les députés socialistes, insoumis, communistes préparent déjà une motion de censure qu'ils déposeront demain dimanche. Son vote devrait intervenir en milieu de semaine prochaine. Et il n'y a aucun suspense. La réforme des retraites sera bien adoptée.
Maxence Lambrecq à l'Assemblée avec Jean-André Giannichini à propos de motions de censure. Nous voterons toutes les motions de censure qui seront présentées, quelles que soient leurs origines, déclare à l'instant Marine Le Pen. En tout cas, sur tous ces sujets, le Premier ministre aura l'occasion de s'expliquer tout à l'heure au journal de 20h sur TF1 en précisant que le 49-3 a déjà été utilisé 88 fois sous la 5e République depuis Michel Debré. Une histoire à réviser sur franceinter.fr.
France Inter. Yves Decamp.
Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu fermé seront donc annulés à compter de ce jour. Le gouvernement réunit ce matin en conseil de défense d'abord, puis en conseil des ministres ensuite, est monté d'un cran dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui s'est accélérée. 16 nouveaux cas ont été confirmés ce matin, portant à 73 le nombre des personnes contaminées depuis la fin janvier. Certains événements extérieurs seront annulés, comme le salon de l'agriculture qui ferme ses portes ce soir, porte de Versailles à Paris, un jour plus tôt que prévu, comme également le semi-marathon de Paris qui n'aura pas lieu demain. Les matchs de foot, en revanche, ne sont pas concernés. Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Le gouvernement a décidé d'adopter une politique de prévention plus stricte en ce qui concerne les rassemblements. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. À ce titre, par exemple, nous allons annuler le carnaval d'Annecy du 6 au 8 mars. À l'inverse, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra car il est à la fois en dehors des zones de cluster et en dehors de lieux confinés.
Parmi les événements annulés, on peut citer encore le salon immobilier de Cannes ou le semi-marathon de Paris demain. D'autres mesures plus strictes sont annoncées pour les deux principaux foyers de propagation du virus, dans l'Oise et dans la commune de Balme en Haute-Savoie, où tous les rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Les habitants invités à limiter leurs déplacements en recourant si possible au télétravail. Les établissements scolaires touchés par le virus ne rouvriront pas lundi. Il n'y aura pas de messe non plus demain dans l'Oise. À Paris, ce sont les bénitiers qui seront vidés, les fidèles invités à ne pas se donner la main. En revanche, il n'y a pas lieu pour l'instant d'envisager un report des élections municipales, précise le ministre de la Santé, qui pense déjà à la suite, Véronique Julia, à la façon dont les hôpitaux, le système de santé en général, va pouvoir faire face.
Oui, on est pour l'instant en phase 2 de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on tente encore de freiner sa diffusion, mais dans son point presse tout à l'heure, Olivier Véran a déjà évoqué la phase 3, celle où l'épidémie sera bel et bien installée en France. Cette étape-là est déjà dans tous les esprits. À ce moment-là, ce ne sont plus quelques dizaines, mais des centaines de cas qu'il va sans doute falloir gérer. Les personnels sont d'autant plus inquiets que l'hôpital n'est déjà pas au mieux de sa forme. On manque de lits, de personnel, pas d'inquiétude. On fera face, explique ce soir l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. La région a déjà prévu 1500 lits pour le coronavirus. S'il y a plus de malades, l'hôpital se concentrera, c'est sa mission, sur les cas les plus sévères. Le directeur de l'ARS, Aurélien Rousseau.
Derrière la même appellation, coronavirus, vous avez des formes sévères, des formes graves, des formes bénignes, un peu comme avec la grippe. Et donc du coup, quand nous serons dans une phase épidémique, mais nous devons avoir des dispositifs variés et gradués de prise en charge des malades. L'essentiel étant que l'hôpital soit capable de prendre en charge les gens qui ont vraiment besoin de l'hôpital. L'hôpital doit être en situation d'accueillir les cas graves.
Les autres patients moins graves seront renvoyés vers la médecine de ville. Autre difficulté, la santé des soignants eux-mêmes. S'ils tombent malades ou sont placés en quarantaine, ils seront remplacés, promet l'ARS. Quant à la grippe saisonnière, elle occupe déjà beaucoup de lits en ce moment. La stratégie consiste donc justement à freiner, à retarder l'épidémie de coronavirus. C'est la phase 2, en espérant que l'épidémie de grippe se termine vite et libère des lits.
Alors, illustration de ces difficultés dont vous parlez, Véronique, à l'hôpital Tenon à Paris, où 3 soignants ont été testés positifs, probablement contaminés d'ailleurs par l'un des cas graves recensés dans l'Oise et hospitalisés justement à Tenon. Leur état n'inspire aucune inquiétude, mais d'autres soignants ont dû être confinés. Adrien Bossard.
Depuis hier, l'hôpital Tenon fonctionne avec 56 soignants en moins, renvoyés chez eux, car en contact ne serait-ce qu'une fois avec leurs 3 collègues testés positifs ou le patient hospitalisé depuis la semaine dernière, explique Hélène Goulet, chef du service des urgences.
Ce patient, quand il s'est présenté, ne venait pas d'une zone à risque, donc n'avait pas de raison d'être isolé. Et ça a été l'objet de la cellule de crise hier, de pouvoir classer tous les professionnels de santé en fonction de leur niveau d'exposition, et de déterminer quel professionnel devait être en éviction pendant 14 jours et puis ne pas se rendre dans des lieux publics.
Du personnel en moins compensé par une activité légèrement réduite, à en croire Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses.
Aux urgences, on a empêché les arrivées de camions, c'est-à-dire les SAMU et les pompiers. C'est pour ça aussi que le service de réanimation, c'est quelque chose qui a été décidé avec l'administration, a été réduit de 5 lits sur 20.
Pour l'instant, ça tient, mais jusqu'à quand? Car il l'assure, il y aura d'autres cas avérés.
Pas seulement à Tenon et pas seulement à Paris. Il y aura des cas parce qu'il y aura des cas qui rentreront dans le système ou qui ne seront pas dans la définition ou qui n'auront pas donné leur facteur de risque ou le lieu d'où ils venaient, etc. etc.
L'hôpital Tenon en appelle à la solidarité au sein de la PHP et décidera lundi d'avoir recours ou non à plus d'intérimaires.
Adrien Bossard. En Europe, c'est l'Italie où 21 personnes sont mortes qui a pris les mesures les plus drastiques. Fermeture des écoles, annulation de nombreux événements. 11 communes du Nord sont en quarantaine depuis une semaine. Comme en Allemagne, 1 000 000 d'habitants de la ville de Heinsberg en Rhénanie du Nord-Westphalie où 4 enfants de maternelle ont été testés positifs ce matin, venant s'ajouter aux 60 cas dépistés déjà cette semaine. À l'étranger, enfin, c'est en Corée que l'épidémie connaît aujourd'hui sa plus forte progression. Plus de 800 cas supplémentaires pour cette seule journée de samedi. L'Iran annonce de son côté officiellement un bilan provisoire de 43 morts.
France Inter.
Les Américains auront-ils quitté l'Afghanistan dans un peu plus d'un an maintenant ? Difficile à imaginer. Et pourtant, le désengagement progressif des troupes américaines est inscrit dans l'accord signé aujourd'hui à Doha au Qatar entre les États-Unis et les talibans, sous réserve bien sûr que les talibans tiennent leurs engagements d'interdire toute organisation terroriste sur leur territoire. L'accord négocié depuis un an et demi au Qatar n'est que le début d'un long processus, mais il acte peut-être la fin de 18 ans de guerre, la plus longue intervention militaire de l'histoire des États-Unis. Chloé Doma nous appelle de Doha.
Pour les talibans, c'est une victoire. À peine les stylos posés, c'est au cri de Allahu Akbar, Dieu est grand, que la délégation talibane s'est levée. Cette signature historique met fin à 18 ans de conflit armé entre les États-Unis et les talibans. Un conflit qui a coûté la vie à plus de 100 000 Afghans et tué 2 400 soldats américains. Washington vient de s'engager formellement à retirer ses troupes en l'échange d'une triple promesse de son ennemi juré. L'arrêt des violences, le début de négociations de paix avec le gouvernement afghan et des mesures effectives pour combattre les autres groupes terroristes, dont l'État islamique et Al-Qaïda. Si les talibans respectent ces 3 engagements, le départ progressif des 12 000 soldats américains actuellement déployés sur le sol afghan pourrait débuter dans les prochaines semaines. Mais la capacité des leaders talibans à faire appliquer l'accord sur le terrain reste à prouver. Chloé Doma, Doha, France Inter.
Un accord que le président Trump présentera comme un grand succès diplomatique, bien entendu, à 8 mois maintenant de l'élection présidentielle. En Turquie, le président Erdogan hausse encore le ton contre le régime syrien, auquel il promet de faire payer le prix de ses attaques contre ses soldats, aussitôt dit, aussitôt fait. Des frappes turques auraient fait ce matin plus de 50 tués dans l'armée régulière syrienne et le Hezbollah. Le président Erdogan, qui s'en prend aussi directement à Vladimir Poutine, soutien principal de Bachar al-Assad, en lui demandant de le laisser face à face avec Damas, le président turc enfin, qui cherche du soutien à l'Ouest et continue d'utiliser le chantage aux migrants en répétant qu'il les laissera passer vers l'Europe. Ce matin, plus de 4 000 d'entre eux ont été bloqués à la frontière grecque où la situation pourrait très vite devenir intenable. Il n'était jamais revenu aussi près de la frontière depuis sa fuite en 2017. L'ex-leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont, en meeting à Perpignan ce samedi, a pu mesurer son niveau de popularité. Toujours intact, plusieurs dizaines de milliers de sympathisants sont venus d'Espagne pour l'écouter. Anne-Natacha Bouillon.
Pour rien au monde, Jordi n'aurait manqué ça. Il est parti très tôt d'Andorre avec sa famille qui lutte depuis le début pour l'indépendance de la Catalogne. Jordi encore très ému.
On a trouvé vraiment un accueillement ici à Perpignan vraiment super. Je suis resté époustouflé de l'organisation. Quand vous avez 200 000 personnes en train de chanter par exemple, c'était un truc vraiment qui émotionne beaucoup. Leur présidence, revenir en Catalogne, tout le monde avait la chair de poule, rien que de le voir.
Pour Sylvie, venue de Manresa, ce meeting marque le grand retour de Carles Puigdemont sur cette terre natale.
Pour moi, c'est mon président et dans la peau. Parce que nous sommes et nous serons toujours en lutte avec notre cause, que c'est seulement la liberté. Carles Puigdemont a dit « Je retournerai à Catalogne ». Et c'est ça.
Des milliers de personnes soutenues par de nombreux Catalans du Nord, Marie-France a fait le déplacement de serré.
Je trouve que c'est important d'être solidaire avec eux. C'est pas normal que des gens soient en prison pour leurs idées. Je suis venue, moi, pour voir tous ces gens qui peuvent se rassembler en aussi grand nombre sans aucun débordement. C'est vraiment extraordinaire.
Tous convaincus par le discours de leur maître, il faut insister, insister encore pour montrer à l'Europe entière que les Catalans savent se mobiliser en masse pour leur cause.
Anne-Natacha Bouillon à Perpignan. Dans un instant, la météo toujours perturbée demain dans la moitié nord. D'abord, un MOOC, un cours en ligne sur les couleurs. C'est la vie connectée de Christine Siméon. Bonsoir.
Bonsoir.
Cette semaine, Christine, vous avez pris un cours en ligne, donc un MOOC, et vous n'étiez pas la seule, puisque des dizaines de milliers de personnes se connectent à ce cours de la réunion des musées nationaux Grand Palais Fondation Orange, pour étudier quoi ? Les couleurs primaires, un sujet plutôt simple a priori.
C'est simple, mais ça peut vous apprendre beaucoup sur l'histoire de l'art, et c'est bien là toute l'astuce de ce MOOC.
Le rouge est la couleur par excellence. Toutes les civilisations ont en effet un mot pour la désigner, au même titre que le blanc et le noir, ce qui n'est pas le cas des autres couleurs. En peinture, la couleur jaune est une couleur essentielle, car elle permet d'apporter de la luminosité dans les œuvres.
Quelle est l'utilisation des couleurs par les artistes ? Quelle est leur interprétation dans les sociétés selon les époques ? Ce MOOC permet une approche tout à fait décomplexée de l'histoire de l'art en répondant à toutes ces questions.
Voilà, par exemple, quel jaune utilisait Van Gogh pour ses tournesols ?
Alors oui, on apprend que c'est un jaune de chrome qui s'assombrit au fil du temps à force d'être exposé aux ultraviolets. Des chercheurs se sont rendus compte en 2011 seulement que ça allait continuer de s'aggraver si on ne laissait pas les tournesols de Van Gogh à l'ombre, y compris de la lumière artificielle. Bref, ni cubisme ni abstraction au programme dans les propos de ce MOOC, mais un voyage au milieu d'une bonne centaine d'œuvres, anciennes ou récentes. Écoutez Isabelle Courty, responsable éditoriale des sites de la Réunion des musées nationaux.
Le numérique en fait a un fort potentiel pour justement donner accès en fait à beaucoup d'œuvres d'art. Et donc en fait, ces vidéos sont enrichies avec des ressources complémentaires qui vont nous permettre donc d'approfondir exactement des notions particulières qu'on n'aura pas eu le temps donc d'évoquer dans la vidéo.
Pas eu le temps d'évoquer dans la vidéo, par exemple, cette utilisation du bleu par un artiste comme Enki Bilal. Le célèbre auteur de bande dessinée explique ici le rôle du bleu dans ses dessins.
Le bleu est devenu une espèce de respiration qui, moi, m'était nécessaire dans peut-être l'oppression que je mettais dans l'univers que je représentais, par d'autres couleurs, peu nombreuses. Quand on dit que mon univers est sombre, moi, j'ai toujours dans l'esprit l'idée que le bleu contrecarre, même une pointe de bleu, contrecarre cette angoisse que peut ressentir celui qui regarde. C'est la porte ouverte sur un espoir. Voilà. Donc le bleu, il est là pour ça, en grande partie. Hein.
L'intérêt de ce MOOC, c'est aussi de faire appel aux internautes pour constituer leur propre diaporama, légender d'une phrase des œuvres de leur choix. Tout est fait pour que les gens participent et échangent. Depuis 2014, les MOOC RMN Grand Palais Fondation Orange ont réuni 140 000 participants.
Voilà, RMN comme réunion des musées nationaux. La vie connectée de Christine Siméon à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Le beau temps, ce n'est pas pour demain, après le temps à caractère tempétueux qui a traversé toute la moitié nord du pays aujourd'hui avec une accalmie des pluies, d'orages et des fortes rafales ce soir. Demain, une nouvelle et puissante perturbation va traverser le pays dans la journée. Déjà présente en début de matinée sur la façade atlantique, elle va faire la jonction avec les régions les plus à l'est en cours d'après-midi en s'accompagnant d'orages, de neige au-dessus de 1700 mètres sur les Pyrénées, 1200 sur le Massif central et les Alpes. Des flocons également prévus le matin dans l'intérieur de la Bretagne, puis en journée de la Normandie au Hauts-de-France. Sur ces régions, les précipitations seront plus marquées qu'ailleurs, et le tout va s'accompagner de vents forts jusqu'à 80 ou 100 km à l'heure en général. Notez que le pourtour méditerranéen et l'est de la Corse vont conserver un temps sec et partiellement ensoleillé. Les températures partout au-dessus des gelées matinales atteindront 10 degrés en moyenne l'après-midi dans la moitié nord. Il fera 12 à 15 en Rhône-Alpes et dans le quart nord-est, et 15 à 17 sur les régions méridionales.